Bonsoir, un calme précaire est revenu depuis hier mardi après une tension observée dimanche dernier à Malembankoundou à la suite des incidents impliquant les communautés locales de la place. Selon nos sources, tout serait parti de la découverte du corps sans vie d'un jeune motocycliste de cette cité. Il aurait été tué par deux personnes supposées d'origine kassène qui ont aussi emporté sa moto. Pris de colère, certains autres jeunes de Malembankoundou ont mené une descente punitive dans les résidences des ressortissants kassaïens. À Goma, au Nord Kivu, un officier des FRDC est décédé après avoir été lynché, soupçonné d'être un rebelle du M23. Lors de son discours à la nation, le président de la République a lancé un appel au pouvoir public de mettre toute son œuvre pour favoriser, avec l'urgence la plus absolue, le retour au calme à Malembankoundou. Le week-end dernier, il avait qualifié d'ignoble l'assassinat de l'officier des FRDC tué à Goma avant de demander que justice soit faite à Kisangani dans la province de la Tchopo. Le conflit qui oppose les communautés Mbole et Lingola ne cesse de s'étendre dans plusieurs localités et touche désormais d'autres communautés. Quelle analyse faire de cette situation? Que faut-il pour mettre fin à ces actes d'intolérance, des haines tribales et d'injustice populaire observées à travers le pays? Nous en parlons ce soir avec Norbert Yambayamba, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Aussi dans ce débat, Alain-Joseph Lomanja, analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Alain Lomanja, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs.
Professeur Lapika Diompoumou est aussi avec nous dans ce débat. Il est anthropologue. Professeur Lapika, bonsoir.
Bonsoir madame.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, channel 572, sur DirecTV, canal 867. Vous pouvez aussi nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Des personnes tuées, des femmes violées, des maisons incendiées, des marchandises emportées, ça se passe dans le territoire de Malembankoundou, dans la province du Haut-Lomami. Les forces de sécurité de la défense ont réussi à rétablir le calme, mais qui reste précaire. Jusqu'à présent, le bilan serait de 4 morts. Les notables de ces territoires appellent toutes les parties au calme. Jean Gando pour le reportage.
Ces incidents sont partis de la découverte du corps d'un motocycliste bien connu à Malemba, renseignent plusieurs sources sur place. Ces bourreaux seraient deux personnes identifiées comme des ressortissants du Kassai qui, après leur forfait, ont aussi emporté sa moto. Cette découverte macabre a suscité un sentiment de colère de la part de certains jeunes qui, pour venger la victime, ont organisé une descente punitive dans les résidences des ressortissants kassaïens. Trois personnes ont été tuées, dont deux brûlées, des femmes violées, des maisons incendiées, des biens dont les marchandises emportées rapportent des témoins. Le président de la communauté kassaïenne de Malemba demande aux autorités de tout faire pour mettre la main sur tous les auteurs de ces actes odieux et même sur ceux qui ont tué les motocyclistes afin que justice soit faite. Émile Mutombo.
Nous demandons à l'État congolais de conjuguer de grands efforts pour identifier les scientifiques qui nous ont mis mal à l'aise, qui ont tué nos frères, pour qu'ils soient poursuivis, punis. Nous vivons la psychose la plus générale. Nous savons à quel fait nous vouer pour ce moment.
Pour sa part, Witt Mulongo, notable de ce territoire, invite tout le monde à la retenue.
Je vous appelle tous, mes frères et sœurs, à l'apaisement et au calme, afin d'envisager paisiblement la voie de développement de notre territoire. Nous avons tous besoin du calme pour y arriver.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Capi.
Merci Jean Gandou pour ce reportage. Alain-Joseph Lomanja, vous êtes analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Vous venez de suivre ce reportage de Jean Gandou. C'est genre des cas, on les retrouve pas seulement à Malembankoundou dans la province du Lomami, c'est à travers toute la République aujourd'hui, à Kisangani, ce conflit Mbole-Lingola, à Kwamout, vous avez l'été Afrique et Iaka, à Goma, il y a aussi ces conflits inter-ethniques ou communautaires. Comment on peut expliquer, au fait, ce phénomène qui s'observe de plus en plus dans plusieurs provinces de la RDC?
Rebonsoir, madame. Je vais commencer peut-être par le même constat que vous faites, mais un double constat. D'un côté, le constat de la recrudescence de tous ces conflits communautaires et intercommunautaires, et de l'autre, c'est celui d'une relative faiblesse de la réponse de l'État congolais à ces conflits communautaires et intercommunautaires. Il revient en effet à l'État, comme nous le savons tous, de promouvoir la dignité de la personne humaine, de tout Congolais, où qu'il se trouve sur le territoire national, et de protéger le droit à la vie et à l'intégrité physique de tous les citoyens. Or, jusqu'ici, ce qu'on observe, c'est une relative absence de l'autorité de l'État dans les foyers de détention qui sont déjà connus et qui auraient pu bénéficier des mesures préventives pour éviter qu'on arrive à l'éclatement de ces conflits-là. Donc on dirait que les services de l'État jouent au médecin après la mort, ce qui fait que ce qui aurait dû être prévenu à temps ne l'a pas été, et on voit que les conflits sont en train de prendre de l'ampleur. Il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces événements se déroulent dans un contexte préélectoral très très tendu et caractérisé par la floraison des discours de haine, mais aussi par une forme de repli identitaire. Alors, dans un tel contexte, on attend normalement de tous les acteurs, que ce soit des acteurs politiques ou autres, une grande forme, un grand sens de responsabilité pour éviter d'envenimer la situation. Or, ce qu'on a observé depuis quelques mois, c'est la montée des discours communautaristes, des discours régionalistes qui n'ont pas permis qui n'ont pas favorisé la cohésion sociale et l'harmonie ou la cohabitation pacifique entre les communautés. À partir du moment où il y a des enjeux importants, que ce soit des enjeux électoraux, que ce soit des enjeux économiques, que ce soit, comme on dit, cette rareté des biens qui crée les conflits, à partir du moment où tous ces facteurs sont rassemblés, on ne peut qu'assister à la recrudescence de ce genre de conflits. Parce qu'on dit la rareté des biens crée les conflits, et parmi ces biens, ça peut être la terre, ça peut être des ressources rares, ça peut être des postes de responsabilité, des postes de commandement, et tout cela fait en sorte que les communautés qui pouvaient vivre en paix ou qui vivaient déjà en paix se retrouvent en général dans des conflits prévisibles.
Alain Lomanja, vous l'avez dit vous-même, hein, on observe une montée des discours régionalistes qui ne facilitent pas la cohabitation pacifique. C'est vrai qu'il y a cette montée des discours et tout. Le pouvoir public est là, observe, mais ne sanctionne pas. Voilà, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi le pouvoir ne sanctionne pas toutes ces personnes qui distillent qui font passer des messages de haine, des messages tribaux. Pourquoi l'État n'agit pas?
Alors, il faut déjà commencer par constater que nous avons changé d'époque, que nous sommes à l'heure du numérique. Et en guise d'excuse, entre guillemets, pour l'État, c'est qu'il est difficile de contrôler tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On peut le faire, mais ce n'est pas toujours évident d'arriver à contrôler tous les discours de haine qui circulent dans les réseaux sociaux ou sur Internet ou dans les médias. Mais le plus grand constat, effectivement, comme vous avez dit, c'est une sorte de absence de réaction de l'État devant ces situations. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On peut se demander si ce n'est pas parfois lié à certaines accointances politiques. Parce que on a vu dans les conflits qui ont précédé que selon qu'on se trouvait
du côté de tel ou tel camp politique, on peut être sanctionné ou ne pas l'être. Et alors, quand la situation s'embrase, l'État ne sait plus faire face à cet embrasement. Et c'est là qu'il faudra que les services de l'État se réveillent à temps.
Merci Alain Lomanja. Norbert, le professeur Norbert Yambayamba vient de nous rejoindre dans ce studio. Comme je le disais, il est directeur des cabinets du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, professeur, aujourd'hui, dans notre magazine de ce soir, Dialogue entre Congolais, nous parlons de la montée des discours de haine, des discours tribaux à travers la République, beaucoup d'actes de tolérance observé ça et là dans certaines provinces de la RDC. Où est l'État? Que fait l'État?
Je voudrais quand même vous remercier, madame, pour votre grande capacité, non seulement de recevoir les hommes politiques, mais aussi de poser des questions pertinentes qui ont une répercussion réticente sur notre peuple. La question que vous posez est une question fondamentale, madame, parce qu'il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours transformationnel. On est sur les accessoires. Les hommes politiques n'ont pas d'offre politique. Les hommes politiques n'ont pas d'horizon politique. Et le seul rêve, que je considère une rêverie romantique, qu'ils offrent à notre peuple, c'est de visualiser la tribu, la province, etc. Et donc, on ne dit pas très concrètement, oui, demain il y a des élections, je suis candidat, par exemple, de l'UDPS dans tel endroit. Alors, nous allons faire quoi dans cet endroit-là? Quelle est la politique générale de l'UDPS au regard de son offre politique à travers le pays et les répercussions aux différents niveaux d'atterrissage? Ça, on en a besoin. Il me semble que lorsque vous lisez, vous voyez tous ces hommes politiques, c'est facile de dire, tel ne sait pas, tel n'a pas pris des responsabilités. Mais il ne peut pas vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Et lui, s'il arrivait au pouvoir, il ferait quoi? Alors maintenant, cet exercice n'est pas de mise. Et tout le monde veut prendre un raccordement frauduleux et en ayant un discours si facile qui fait tout le monde comme des pseudo-chercheurs politisés. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. À quelques jours, c'est pas de la campagne électorale, je n'attends pas même les candidats présidents de la République. On ne vous dit pas très concrètement. Ils présentent un programme qu'on peut ramasser n'importe comment dans...
Mais vous, ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont passer des messages de haine, des discours tribaux dans certaines provinces. Certains le font même à visage découvert. Mais qu'est-ce que vous faites pour arrêter cela?
Quelqu'un que je venais de suivre parlait d'une certaine complicité tacite. Moi, j'ai dit non. Il n'y a pas de complicité. Vous savez que la dépravation de mars, dans les luttes politiques de notre pays, est une déjà confession. Qu'est-ce que nous faisons? Vous avez suivi quand on vous a dit, écoutez, arrêtez avec les insignes, les pancartes, etc. Il faut respecter la loi. On est en train d'y travailler et nous avons le rapport des différentes provinces. On est en train véritablement d'avancer. Maintenant, madame, on est dans un système de surveillance mutuelle. L'État, ça veut dire quoi? L'État suppose l'ensemble des institutions. Chaque institution a une mission, a une responsabilité. Et chacune de ces institutions doit jouer sa partition. Le tribalisme, ça, c'est accusé, qu'est-ce que je dirais, c'est pratiquement une infraction. Mais qui doit recadrer, qui doit réguler cette infraction? C'est la justice. Il faut que la justice fasse son travail. C'est très important. Vous n'allez pas dire que c'est le président de la République qui va venir pour dire, écoutez, parce que tu as fait à ciel ouvert telle faute, le tribalisme, donc je vous arrête. Alors, à ce moment-là, ça serait un dictateur. Même Mobutu ne le ferait pas. Et nous avons voulu un partage des rôles. Nous avons voulu une répartition des responsabilités. Et cette répartition des responsabilités doit se cristalliser. On a besoin que les différents services de la République agissent de manière professionnelle. Aujourd'hui, il y a la police.
Mais cette police, la police, elle fait quoi, monsieur Yambayamba? On va prendre les cas de Malemba Nkoulou. Il y a eu cet incident à Malemba Nkoulou. Les gens se sont entretués. La police, elle était là. Elle n'a pas réussi à faire baisser la tension. Il fallait qu'il y ait l'intervention de l'armée.
Mais c'est pourquoi les deux sont disponibles pour ça.
La police, à elle seule, elle n'a pas la capacité de maîtriser ce genre de situation.
On a toujours vu, madame, ce n'est pas le Congo qui doit faire exception, même dans beaucoup d'endroits. Lorsque la police est débordée, on fait appel à l'armée pour suppléer aux efforts de la police. Ça, ce n'est pas quelque chose qui nous étonne, qui est fondamentalement congolaise. Non. Et donc, la police est là. Et vous savez, les effectifs sont assez réduits, surtout en milieu rural. Aujourd'hui, c'est l'un des motifs. C'est la politique et du gouvernement de la République.
Pourquoi justement il n'y a pas assez de policiers?
Bien entendu, on y travaille. Il y a 13 000 policiers qui sont en stage aujourd'hui, qui sont en train véritablement d'apprendre comment. Vous avez vu, on venait encore de recruter et on continue à recruter, madame. Nous sommes une grande nation. Nous sommes 80 fois plus que la Belgique. Et donc nous avons intérêt aujourd'hui d'avoir une police qui permette véritablement de régler. Encore que la police, il faut les équipements, il faut les moyens de mobilité, etc. Tout cela exige qu'on ait des moyens. Et nous sommes en train de rassembler et c'est la priorité du chef de l'État pour qu'on y arrive. Donc il ne faudrait vraiment pas avoir des émotions toxiques pour dire écoutez, l'État n'existe pas. Non, 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 non.
Oui,
non.
Les gens meurent, les gens sont attaqués, l'État ne fait rien.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? À Malemba Nkoulou. Est-ce que vous avez les informations d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait des sites qui ont posé des actes incontrôlés? Ah non, madame. Ce qui s'est passé, par exemple, à Goma.
À Goma.
Vous avez des informations? Nous savons que la police est en train de prendre ses responsabilités.
La dimension de la République.
C'est une situation complexe, madame. Aujourd'hui, je vous dis, même au Sankourou, je viens tout à l'heure, là, je suis arrivé légèrement en retard. Il y a, dans la chefferie de Djonga, les gens se sont entretués et vous savez pourquoi? Parce que les hommes politiques sont là-dedans. Et à la veille des élections, on crée des camps politiques, surtout nos amis qui ont hérité, qui ont le manquem, le manquetum de l'ancien système, etc. Et qui brandissent l'argent, les antivaleurs, les népotismes comme étant, n'est-ce pas, des outils institutionnels, etc. Donc, et tout ça.
Selon vous, ce sont les hommes politiques qui sont derrière situation.
Ça fait partie des recettes. Les hommes politiques, pour se taper des endroits de repli, parce qu'ils viennent se battre pour qu'ils soient au gouvernement central ou à l'Assemblée nationale. Mais ils organisent leurs bases respectives sur base des tribus. Et donc, ils estiment que bon, quand ils grattent au niveau national, ils peuvent se replier au niveau, c'est pas provincial. Et à tout état de cause, il dit à ces gens, non, vous voyez, ces gens qui sont venus ont pris nos postes, etc. Il faut faire attention, nous avons tout faire pour les combattre et véritablement prendre nos postes. Or, lorsque vous êtes dans tel ou tel endroit, il y a, par exemple, de la forêt, de la savane, comme chez les tétés, etc. Et si vous arrivez dans la savane, vous allez trouver du nord et du sud. C'est un faux problème. Les hommes politiques doivent avoir des offres politiques, doivent avoir des programmes agissants transformationnels. Et ces discours doivent être cristallisés dans le chef de ce que nous faisons. Mais il me semble que c'est loin. Il y a une distanciation incroyable en termes d'horizon politique, en termes d'offres politiques, qui est le problème de notre peuple.
Professeur Lapika Dionfumo, vous êtes anthropologue. Professeur, comment vous pouvez expliquer ces phénomènes qui prennent de plus en plus d'ampleur dans notre pays?
Bien, madame, avant d'expliquer, il faut d'abord évoquer un sentiment d'indignation. Il faut déplorer ces actes ou ces événements. Il faut condamner les auteurs de tous ces actes. Ça doit être un sentiment national presque de révolte face à des morts, mais des morts qu'on peut appeler gratuits, parce que la plupart des victimes ne méritent pas cette mort-là. Mais au-delà de ces sentiments d'indignation et de condamnation, il faut passer maintenant à une analyse des événements. Et l'analyse doit d'abord nous amener à bien identifier les problèmes qui se posent réellement dans chaque contexte. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes, suivant les contextes. Il faut bien les identifier de manière à apporter des solutions qui soient adaptées à chaque contexte. Dans cette analyse, madame, il faut d'abord qu'on sache quelle est la cause. Qu'est-ce qui est à la base du déclenchement de ce mouvement qui débouche sur des conflits qu'on peut appeler ethniques, et tribales, communautaires, etc., etc. Une fois qu'on a identifié les causes, il faut en rechercher les auteurs. Qui sont les vrais auteurs de ces causes? Pour connaître les auteurs, c'est très facile de dire que ce sont des politiciens, mais vous devez, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous référer à ce qui se passe, parce que les conflits, qu'ils soient ethniques, tribaux, claniques, eh bien, c'est un problème aussi vieux que l'humanité. Il n'est pas congolais, simplement. Il n'est pas africain, simplement. Il est mondial. Il est mondial. Parce que ce que nous vivons ici au Congo, eh bien, d'autres communautés en Belgique, en Ukraine, en Grèce, en Palestine, vivent ces conflits qui sont liés, à la nature humaine. Dès l'instant où nous sommes des créatures issues des contextes socioculturels différents, eh bien, nos différences culturelles créent automatiquement des facteurs de conflit vis-à-vis du voisin. La grosse difficulté que nous avons dans notre pays, c'est que nous sommes distraits. Nous sommes distraits, nous nous réveillons seulement lorsqu'on apprend qu'il y a eu mort d'homme à Malembankoulou, il y a eu mort d'homme à Goma, on se réveille, alors que c'est un phénomène qui est permanent. Qu'est-ce qu'en tant que société...
Permanent, mais qui prend de plus en plus de l'ampleur.
Oui. Qu'est-ce que nous avons fait pour prévenir cela? Je vais vous renvoyer à notre histoire. Vous savez que dans la société traditionnelle, sachant que les conflits sont inhérents à la nature humaine, on a créé des institutions pour justement prévenir les conflits. Par exemple, le mariage. On a vu comment, c'est pas pour rien qu'un chef coutumier a 4, 5 ou 10 femmes privés dans divers villages. C'est justement pour prévenir les conflits. Vous avez, je peux vous donner l'exemple de certaines tribus où les conflits n'existent pas, où sont annihilés par des phénomènes culturels. On dit, par exemple, entre les Soukou et les Pindi, eh bien, il n'y aura jamais de conflit parce que traditionnellement, ils se considèrent comme issus d'un même clan et ils s'appellent des frères. Et dans d'autres tribus où les conflits ont eu lieu, eh bien, il y a eu des mécanismes qui ont permis à maîtriser ces élans vers l'éclatement des conflits. Alors, mais bien sûr, ce que je dis là, ça nous renvoie à la société traditionnelle. Je vous en parle parce que je suis anthropologue, mais est-ce que c'est faisable aujourd'hui dans la société moderne? J'ai dit oui, c'est faisable. Mais c'est faisable comment? C'est faisable, il appartient à l'État congolais, justement, de créer des structures de prévention à travers des médiateurs qui ne doivent pas attendre qu'un conflit éclate, mais qui doivent mettre en place des mécanismes pour rapprocher les peuples les uns les autres. Nous n'avons pas cette structure-là. l'État ne fait pas appel aux anthropologues pour voir, qui connaissent les us et coutumes de chaque peuple, pour voir qu'est-ce qu'il faut éviter pour qu'un conflit n'éclate. Nous savons tous, vous le savez, madame, qu'à l'approche des élections, qu'il y a des velléités qui vont nous amener vers l'éclatement des conflits. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On se contente seulement de la CENI, mais la CENI ne résoudra pas ce problème. Donc moi, j'ai dit, si nous voulons résoudre ce problème à long terme, eh bien, nous devons nous intéresser à l'organisation de nos sociétés, à identifier les risques majeurs qui peuvent déboucher sur des conflits et à créer des structures capables de prévenir ce genre de conflits.
Alors, il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent hein, sur la page Facebook de Radio Okapi. Roland Kiabumba, depuis Calais au Sud Kivu, il pose la question de savoir quel est le vrai rôle des services des renseignements et des chefs coutumiers. Peut-on dire qu'ils sont à la base de la détérioration de la cohabitation et quelle est la part des hommes politiques et scientifiques? Professeur, vous pouvez répondre à la question de Roland Bukondo, professeur Lapika.
Bien, c'est une question intéressante parce que nous savons très bien que les chefs coutumiers ont pour rôle essentiel d'assurer la cohabitation, non seulement des peuples entre eux, mais même des peuples étrangers. Mais ces chefs coutumiers, est-ce qu'ils ont encore la capacité de jouer ce rôle-là? Est-ce que ces chefs coutumiers sont encore écoutés? Parce que les chefs coutumiers ont un pouvoir, justement, un pouvoir qui permet aux habitants de sa contrée de respecter ce que les chefs coutumiers disent. Mais aujourd'hui, les chefs coutumiers ont été dévalorisés, ils n'ont plus ce rôle-là. Alors, les hommes politiques à travers les structures étatiques peuvent jouer un rôle, mais un rôle mineur. Parce que le mal, il est d'abord à la base. Le mal est au sein des communautés. Les hommes politiques deviennent aujourd'hui non pas des instincteurs de conflits, mais plutôt ceux qui jouent le rôle d'allumer ce conflit-là. Moi, je ne pense pas que les hommes politiques aujourd'hui, surtout dans un contexte comme celui-ci, soient capables de jouer ce rôle-là. On peut se référer peut-être à la société civile, pourquoi pas. On peut se référer peut-être aux églises, pourquoi pas. Voilà des pistes à travers lesquelles on peut s'assurer qu'il est possible d'amener les uns et les autres vers une médiation culturelle.
Merci, professeur Lapika. Je vais vous redonner la parole, professeur Norbert Yamba. On va d'abord prendre ces auditeurs qui appellent sur notre standard. On va se rendre au Sud Kivu, non pas au Sud Kivu, plutôt dans la province du Haut-Lomami, à Luena, pour écouter cet auditeur qui appelle.
Charles Mpudika à Luena, province du Haut-Lomami. Tout en condamnant ce qui s'est passé à Malemba Nkulu, je pense que ceci doit interpeller chacun de nous, depuis le sommet jusqu'au dernier citoyen, d'éviter le triomphalisme lorsqu'on cherche la cohabitation pacifique entre communautés. Des messages sur les réseaux sociaux et radio doivent être tamisés et tous les soi-disant communicateurs des différentes communautés doivent mettre de l'eau dans leur vin pour ne pas embraser le pays en cette période électorale.
Alain Lomanja, que pensez-vous de la proposition de Charles qui nous a appelé depuis Luena dans le Haut-Lomami?
Oui, je pense que c'est une proposition sage et intéressante qui demande, qui appelle encore à la responsabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est là que je voudrais aussi peut-être rebondir sur ce que venait de dire le professeur Lapika à propos de la nécessité d'une analyse approfondie des conflits auxquels nous assistons pour que nous ne puissions pas devenir des spectateurs impuissants des drames communautaires dans notre pays. On sait que dans chaque conflit, il y a toujours des parties primaires qui s'opposent directement, qui sont sous nos yeux, mais il y a aussi des parties secondaires qui tirent profit de ces conflits-là. Et il faut essayer d'identifier aussi bien les parties primaires que les parties secondaires et essayer de travailler avec tous pour arriver à trouver des compromis. Et je voudrais peut-être, madame, si vous permettez, souligner la nécessité de la contextualisation des faits et des événements malheureux auxquels nous assistons. Il est vrai qu'il y a des discours de haine qui prolifèrent, mais il faut analyser les faits au cas par cas pour ne pas tomber dans une forme de manipulation et d'exploitation politicienne des conflits communautaires. Je voudrais juste prendre un exemple pour illustrer mon propos. Il existe aujourd'hui des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, des vidéos d'une violence atroce de Malembakoulou, par exemple, notamment celle des traitements inhumains et dégradants qui ont été infligés à une jeune femme qu'on a présentée comme étant une kassaïenne. Après un moment, on a dit que cette femme-là était décédée. Il y a d'autres vidéos qui circulent maintenant qui la montrent vivante et d'autres qui discutent de son origine. Est-ce qu'elle a été attaquée, même s'il faut condamner absolument cette attaque odieuse d'une femme? Mais est-ce qu'elle a été attaquée parce qu'elle est kassaïenne? Est-ce qu'elle est kassaïenne? Est-ce qu'elle avait hébergé les agresseurs du jeune motocycliste qui a été tué? Autant de questions qui n'ont pas de réponse claire jusqu'à présent et qui nécessitent qu'on puisse clarifier les choses avant de conclure rapidement, parce que les conclusions hâtives peuvent contribuer à accroître les tensions entre les communautés.
Merci Alain Lomanja, professeur Yambayamba. On va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
Achille Omar Tchepele, depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'est vraiment amer pour un pays dit démocratique et d'état de droit qu'on vive ce genre d'actes de justice populaire. Cependant, la majorité de ces cas se vit après des discours haineux, tribal et suicidaire tenu par certains candidats présidents et députés au rendez-vous de décembre 2023, qui, au lieu d'exposer leurs projets d'action, ces derniers utilisent l'arme verbale avec des propos d'excitation, de balkanisation et d'appartenance ethnique de tel et de l'autre. Si des mesures fortes sécuritaires ne sont pas prises pendant la période de la campagne, la population sera exposée aux dangers inexplicables. Pour ce, nous suggérons la poursuite judiciaire à tout candidat qui se comportera ainsi dans les prochains jours.
Si des mesures ne sont pas prises, la population risque d'en payer le prix pendant cette période, cette campagne électorale. Professeur Norbert Yambayamba, vous répondez quoi à Achille qui a appelé de Lubumbashi?
Merci beaucoup. J'ai pris le train en cours de route. Je voudrais saluer notre ami Alain
Lomanda
et le professeur Lapika. En tout cas, je suis très heureux de participer avec lui dans cette émission qui est suivie sur l'ensemble du territoire national. Mais ici, j'ai deux points. Le premier point porte sur quelques observations. Certainement qu'à un moment donné, les profs parlaient de contexte et que l'analyse se fasse en fonction du contexte. Mais je réalise finalement qu'il y a plus de constances que de dissemblances. Donc, la plupart des décisions qui peuvent être prises peuvent tenir compte de la fréquence de ce que nous on observe dans les différentes tribus de la République. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, quand les politiciens, et ce n'est pas le professeur, j'ai oublié, le criminologue congolais qui a été même directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur, il est sénateur maintenant. Il disait que quand les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Ça veut dire qu'il y a augmentation ou la prolifération de milliers criminogènes. Et à différentes formes. C'est-à-dire qu'il faut que les politiciens s'entendent. C'est très important. Or, les politiciens sont des vendeurs d'illusions. Ils n'ont pas de solution et ils vendent les illusions à qui veut les entendre. Je voudrais également dire que, parce qu'on veut vraiment qu'on vienne aller dans l'analyse. Le professeur Lapika ne me contredira pas pour donner la nuance qu'il y a entre les relations organiques et les relations mécaniques. Dans nos villages, il y a ce qu'on appelle des relations. Tout le monde connaît tout le monde. Et lorsqu'on est au village, on peut bien partager, n'est-ce pas, la chikwang, le riz, le mpondou, etc. Même les enfants d'autrui peuvent entrer chez le voisin. Et la tendance, lorsqu'on vient en ville où les relations sont organiques, ça veut dire, en fait, il faut avoir un service, il faut avoir une institution où vous œuvrez. Et là, c'est le critérium lié à la compétence qui est pris en considération. Mais lorsqu'on se trouve en situation où il y a peu d'emplois, il y a plus une armée de chômeurs de luxe, et ceux qui pensent qu'il faut se sauver vis-à-vis de la pauvreté, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se replient sur ce qu'on pratique au village. C'est comme ça que vous voyez les associations des ressortissants des Maïndombé, ressortissants de ceci ou de cela. Etc.
Est-ce que ce phénomène aussi des ressortissants n'amplifie pas?
Mais c'est justement, ce sont les phénomènes observés à la suite de la pauvreté. Et donc, lorsqu'on n'est même pas dans l'analyse, lorsqu'on n'est même pas le paquet de la pauvreté dans l'analyse de ce que nous faisons, tant que nous ne serons pas en mesure de donner le moyen, de donner le travail, de donner la possibilité à tout Congolais de pouvoir mieux vivre avec sa famille, mieux vivre, mieux assumer son destin. Et donc, on aura à observer toutes ces conséquences qu'on est en train véritablement de vivre. Vous imaginez, lorsqu'on se dit, c'est Mouswahili qui arrive au pouvoir, on se dit, donc, les Baïswahili sont contents, etc. Et puis bon, ils vont trouver du travail, un Mongala, etc. Un Mukongo, c'est comme ça. Alors maintenant, s'il y avait possibilité de trouver du travail pour tout un chacun, et à ce moment-là, il y aura moins de tribalisme. Je me suis beaucoup allé à une formation à Berlin ou en Allemagne, et puis j'étais avec un ami allemand, j'étais devant la chancellerie allemande. Et j'ai dit, je ne vois pas de militaires, je ne vois pas de police. J'ai dit, mais cher ami, mais pourquoi il n'y a pas de police? Il dit, mais dans une société, lorsqu'elle est équilibrée, lorsqu'il y a équité, on n'a pas besoin d'avoir une armada de police ou des militaires pour assurer la garde, n'est-ce pas, de la chancellerie ou de la présidence. Parce qu'en réalité, chacun trouve son compte.
Oui. Et ce n'est pas le cas pour la RDC.
Bien entendu. Et ça reste un défi. Ça reste un défi. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va dire, écoutez, il faut qu'il y ait une entente intercommunautaire, on va s'attendre. Pour manger quoi? Pour trouver du travail comment? Comment s'allonger? Trouver la santé? L'école? Toutes ces questions questionnantes posent la problématique de pouvoir donner d'autres sentiments émotionnel, parfois toxique, et qui abrase pratiquement toute la société. Alors, je voudrais également dire qu'aujourd'hui, le ministère a pris un certain nombre de dispositions. Et je salue ce que le professeur Lapika disait tout à l'heure, où il dit, il faut faire intervenir la société civile. C'est vrai qu'il y a des services de sécurité traditionnels qui font un travail très important dans la sécurisation de notre peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'innover ça. D'innover, la perspective, c'est de faire en sorte qu'au lieu que ce soit seulement la police, l'Agence nationale de renseignement, la migration, toutes ces structures de dissuasion de l'État, les cours et tribunaux, etc., il faut ajouter dans un comité, dans un cadre de concertation, la société civile, qui sont des corps d'intermédiaires et qui se battent à longueur de journée justement pour construire la performance de nos institutions. Aujourd'hui, depuis juillet, le Premier ministre a sorti, sous l'initiative bien entendu du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, un arrêté qui détermine la nouvelle structure, un arrangement institutionnel qui implique à la fois les structures de l'État et les acteurs étatiques. Au niveau provincial, il y a ce qu'on appelle le comité de pilotage provincial de sécurité, le comité de sécurité locale, c'est-à-dire au niveau de la ville, au niveau de la commune, secteur ou chefferie. Donc, à chaque niveau, vous avez des réunions qui se font entre les structures de l'État et les citoyens qui apportent l'information. Parce qu'en réalité, il faut que les gens sachent qui on est en train de se battre pour nous.
Est-ce que ces structures fonctionnent réellement?
Non, nous venons. Oui, bien entendu. Maintenant, on est en train véritablement d'opérationnaliser cette structure sur l'ensemble du territoire national. Nous avions eu un décret. Aujourd'hui, nous avons des mesures d'accompagnement. Oui, et ces mesures d'accompagnement vont permettre naturellement que les différents conseils de sécurité provinciaux ou locaux fonctionnent autrement en impliquant. Comment pouvez-vous être dans un secteur ou dans un village, il y a des populations qui savent que telle ou telle personne pose des actes incontrôlés, mais ne peut pas vous donner l'information. Mais si la population est impliquée au niveau des discussions dans la maintenance véritablement de la paix, merci, au niveau local, je pense qu'ils vont dénoncer la personne et tout de suite les services de sécurité s'en occuperont.
Merci professeur Yamba Yamba. Professeur Lapika, on va prendre aussi pour vous ce dernier auditeur.
C'est Jonas Boendoa Théophile, activiste et patriotique depuis la province de Sitkibou. Ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, ce sont les conséquences de toutes sortes d'antivaleurs, notamment l'injustice, les favoritismes, l'inégalité, etc. Partout il y a les problèmes, telle communauté est en conflit avec une autre. Pour mettre fin à cette instabilité qui règne dans notre pays, ça serait mieux de faire le dialogue interterre et les solutions cassent afin qu'il y ait la paix.
Alors cet auditeur propose qu'il y ait qu'on organise des dialogues communautaires, intercommunautaires, professeur Lapika. Est-ce que ça peut résoudre ces phénomènes? Est-ce que ça peut résoudre ces conflits qui s'observent ça et là à travers la République?
Oui, madame, partiellement. Partiellement, pas, mais pas totalement. Partiellement. Je vais peut-être argumenter en disant qu'à ce stade, nous devons reconnaître les facteurs qui sont à la base de l'implosion de ces sentiments de racisme, d'ethnicisme, de tribalisme et autres. Nous savons tous que les inégalités sociales constituent un des facteurs majeurs. Hein, partout, il y a des inégalités sociales. Eh bien, vous allez déclencher automatiquement des conflits qui peuvent prendre des allures. Ça commence en conflit individuel et ça devient un conflit tribal, etc., etc. Donc, il faut réduire les inégalités sociales. Ça, c'est une des premières mesures. Deuxième mesure, il faut légiférer sur les auteurs qui sont des producteurs de discours tribaux, ethniques, racistes, etc., etc. Parce que jusque-là, aujourd'hui, tous ces auteurs ont trouvé un boulevard d'intox à travers les réseaux sociaux où ils diffusent n'importe quoi. Et ils ne sont inquiétés par personne. Alors, la conséquence, c'est que les gens qui lisent quoi que ces discours sont réels, alors que ces discours ne sont pas réels. Alors, vous voyez, je voudrais illustrer cela par un exemple très simple. Tout le monde pense aujourd'hui que à Malembankoulou, le conflit qui est là, c'est le conflit des autochtones face aux Kassaïens et on veut chasser les Kassaïens. Comme si les Kassaïens n'étaient pas originaire de Malembankoulou. Mais quand on se réfère aux études archéologiques, mais on constate que, curieusement, les Luba viennent du Katanga. Alors, quand on dit on les chasse pour les renvoyer au Kassai, mais c'est pas là d'où ils viennent. Vous voyez, c'est un peu ce qui est arrivé entre les Yaka, les Teke, au plateau de Mateke. Mais qui est le premier arrivant sur cet espace et qui considère que l'autre est étranger. Donc, il y a des faux discours qui sont véhiculés. Pour moi, il faut lutter contre la diffusion de ces discours-là. Troisième mesure importante, pour moi, il faut que l'État prenne ses responsabilités en mettant en place des mesures de prévention, notamment en désignant des médiateurs Je crois que le pauvre Yamayamba a dit quelque part qu'il y a des institutions qui sont déjà reconnues dans les provinces.
Mm-hmm.
Je connais pas le, hein, je connais pas le contenu, mais c'est dans ces structures-là qu'il faut désigner des médiateurs qui auront pour rôle de réunir régulièrement les gens, d'organiser des activités de cohabitation, etc., etc., de manière à ce que le peuple ou les peuples se sentent un et il n'y aura plus de risques de confrontation. Voilà les quelques mesures que je peux préconiser. Mais pour cela, il faut se référer aux scientifiques qui ont la maîtrise des contextes, comme l'a dit, qui savent comment naissent les conflits, qui sont à la base des conflits et qui est en mesure de résoudre les conflits.
Professeur Yamayamba vous a suivi. Je crois qu'il va transmettre à qui de trois. Merci, professeur Lapika. On va prendre, on va lire quelques réactions des internautes. Merci à Yannick Kabemba, qui nous suit depuis Kolwezi. Fils Lunga parle aussi de la faiblesse du ministère de la communication, ministère de la communication et médias, qui laisse passer n'importe quoi. Voilà. David Wedi pense que ce n'est pas chaque conflit qu'on peut responsabiliser, qu'on peut responsabiliser les politiciens d'être derrière. Les conflits existent depuis l'existence de l'homme sur la terre. C'est à nos populations d'éviter les discours tribaux entre nous. Merci. Merci également à... Vous êtes très très nombreux. Les messages n'arrêtent pas de tomber. On va prendre d'autres réactions. Voilà, voilà, voilà. Il y en a tellement beaucoup, j'arrive même pas à les lire. Alain Lomanja, nous tendons vers la fin, où nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quel message vous pouvez passer à ces nombreux Congolais qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, le prof Lapika a fait des propositions, réduire les inégalités sociales, légiférer sur les auteurs des discours tribaux, mettre en place des structures qui vont prévenir tous ces conflits. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour mettre fin à ce phénomène? Peut-être réduire ce phénomène?
Oui, oui, madame. Je voudrais d'abord commencer par souligner le fait qu'il faut éviter de communautariser des questions individuelles. Il peut y avoir un conflit entre deux individus, des communautés différentes, soit-il, mais qu'on n'en fasse pas forcément un problème entre les communautés. Et tout à l'heure, le professeur Norbert Yamba-Yamba a souligné avec pertinence la nécessité d'impliquer les différents corps sociaux, corps intermédiaires dans la gestion des conflits. Mais je voudrais souligner le fait que, oui, cela intervient, mais ce n'est, souvent c'est à moyen terme, ou disons, quelques temps après l'éclatement du conflit. Mais quand le conflit éclate, comme à Malembakoulou, comme au Nord Kivu, on a d'abord besoin que les forces de l'ordre soient efficaces dans la prévention de ces conflits-là et la protection de la vie et de l'intégrité physique de tous les citoyens. Donc, il revient à l'État de ne pas tolérer des groupuscules de hors la loi ou des partisans de tel ou tel camp qui compromettent la paix sociale et la cohésion sociale par des discours régionalistes ou tribalistes. Il y a un rôle important de l'État qu'il ne faut pas négliger dans ces affaires.
Merci Alain Lomanja, professeur Yamba-Yamba.
Je voudrais simplement dire que l'approche n'est pas sectariste, n'est pas parcellaire, n'est pas sectorielle. L'approche doit être systémique. Ça veut dire qu'on est dans un système et il y a différents maillons à l'intérieur du système. Et chaque maillon a une responsabilité. Donc, il n'y a pas
une première responsabilité, c'est l'État.
Bien entendu, qui a la responsabilité de faire la régulation. Mais si il fait la régulation, il va falloir que à tous les niveaux, qu'on sente la responsabilité de jouer véritablement la partition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais parler comme notre ami Lomanja, qui pense qu'il y a des conflits individuels, il y a des conflits communautaires, etc. Encore que quelqu'un, c'est lui-même qui a demandé un dialogue intercommunautaire, il y en a 250 tribus, vous faites quel dialogue, etc. Donc, À différents niveaux, lorsqu'il y a un problème, on peut chercher comme les Yaka, les Tiki, etc. Ça s'est compartimenté dans une entité. On peut bien faire ce dialogue intercommunautaire, mais pas sur l'ensemble du territoire. Chaque cas équivaut véritablement à son dialogue. Je voudrais également rassurer le professeur Lapika qu'aujourd'hui, certainement, on est en train de mettre en route un arrangement institutionnel qui pousse à la prévention. Un cadre de médiation, un cadre de concertation, même aux affaires coutumières. Vous savez qu'il y a...
Il faut associer les scientifiques.
Bien entendu, on va associer les scientifiques.
On va.
Encore que les scientifiques nous aident aujourd'hui de pouvoir présenter des études, des résultats qui nous permettent d'être guidés pour asseoir. Parce que la plupart des études qui sont réalisées sont assez philosophiques. Il faut que très clairement, qu'on nous présente des choses qui ont un déroulement opérationnel pour dire... Lorsque vous êtes, par exemple, dans une province, voilà, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Lorsque vous êtes dans une ville, dans une commune, etc. Ça, on en a besoin. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui nous inspirent dans cette perspective, encore que ça constitue aussi un défi. Et tout un chacun qui fait partie du système est utile, y compris le paysan, au même titre que le scientifique. Chacun devra apporter sa partition. Je voudrais rassurer tout le monde que... La pauvreté est le nouveau nom du tribalisme. Certainement que sur le plan traditionnel, on a vu le tribalisme. Mais aujourd'hui, ça s'est accentué. Ça s'est accentué, la pauvreté. Il faut lutter contre la pauvreté. C'est qu'on a plus que d'aucuns considèrent la lutte contre les inégalités. Si on ne se bat pas pour qu'on améliore l'eau pour tout le monde, pour qu'on améliore l'électricité pour tout le monde, pour qu'on améliore la santé, l'école, les routes, le marché. À ce moment-là, il y aura toujours une inégalité.
Et c'est vous qui êtes aux affaires.
On va se replier sur les tribus.
Est-ce que ça veut dire que vous avez échoué?
Mais c'est tout le temps le travail que nous faisons. Un travail d'un état en déliquescence pendant plus de 30 ans. Vous le prenez en 5 ans, vous dites non, il faut fermer le trou béant. Qu'il y a. Mais non, on est aujourd'hui, vous avez suivi les discours du président de la République.
Mais en plus que ce genre de messages ou ces discours se sont accentués avec vous, oui, vos affaires, lorsque vous êtes arrivé aux affaires.
Mais c'est pourquoi nous sommes là. Regardez, j'ai autre chose. Je suis au Palais de la Nation, on est en train de travailler. Je suis venu simplement parce qu'on a envie véritablement de relever le défi. Et le vrai défi, c'est de communiquer pour qu'asseoir une certaine vision, une certaine maîtrise des ténèbres et des aboutissants dans les chefs de notre peuple. Donc, nous y travaillons. Les routes sont prises en considération. Le projet PDL 145 territoires, etc. Nous sommes en train d'y travailler, mais dans 5 ans, c'est difficile. Et donc, il faut réduire la pauvreté. Si on ne réduit pas la pauvreté, chacun devra se replier sur sa tribu.
Merci, professeur Yambayamba. Nous sommes à la fin de l'émission, mais répondez rapidement à la question de Aaron qui demande quels sont les moyens mis par mis en place par l'État pour lutter contre le tribalisme à ciel ouvert. Vous faites quoi?
Les services sont disponibles, sont mis en place. La réglementation est là. La justice est là. Toutes les différentes parties qui sont dans les systèmes, chacune doit jouer sa partition. Et donc, les dispositions sont là. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un autre arrangement institutionnel additionnel. Donc, tout existe. La justice est là. Le tribalisme est même condamné. Encore que tous ces services de dissuasion travaillent dans la perspective de dégonfler les tensions et de permettre à tout un chacun de trouver son compte dans
Merci,
dans
professeur Yambayamba. Professeur Lapika, vous avez 30 secondes pour votre conclusion.
Bien, je pense qu'à ce stade, nous pouvons retenir que les conflits tribaux, les conflits ethniques sont inhérents par la nature de nos sociétés. Et il nous appartient, nous, en tant que membres de société, d'inventer aujourd'hui des mécanismes de résolution des conflits, mais surtout des mécanismes pour instaurer une paix durable. Et une paix durable, ce n'est pas une paix des armes, c'est une paix des cœurs. Et la paix des cœurs suppose, et je suis d'accord avec le prof Yambayamba, suppose la réduction des inégalités sociales. Et ces inégalités varient d'une communauté à une autre. Il y a des contrées riches, des contrées pauvres, mais il faut apprendre à chacun à travailler pour gagner sa vie et que l'État apporte les appuis nécessaires pour augmenter la richesse de chacun d'entre nous.
Merci, professeur Lapika. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Willem Lungamba, Clément Tumanga, Jonathan Poinani et Dieudonné Nyangasa qui m'ont accompagné dans la préparation et la présentation de ce magazine. Au micro, Kelly Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.